Qu'on va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième cours, sur le chapitre 32. Nous sommes à la page 35, c'est ça? Non, 85, d'accord, dans le livre du Tania, le livre blanc. Qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? On a expliqué plusieurs points, des points très importants. D'abord, on a expliqué, dans le premier cours, longuement, que pour aimer réellement son prochain, nous sommes obligés de faire passer l'âme avant le corps. C'est-à-dire, chacun de nous, chaque personne qu'on regarde, on peut le regarder par rapport à son corps ou par rapport à son âme. Quand on regarde quelqu'un par rapport à son corps, quand ma manière de réfléchir est principalement par mon corps et pas par mon âme, automatiquement tout est par intérêt. La seule façon d'avoir un amour désintéressé envers quelque chose, envers quelqu'un, que ce soit ma femme, mon fils, mon ami, peu importe, c'est de l'aimer avec mon âme. Et de l'aimer par rapport à son âme. Pas par rapport aux qualités qu'il a, pas par rapport à ce qu'il est beau, il est riche, il est gentil, il est intelligent, mais simplement parce que je sais qu'il a une âme en lui et que cette âme, elle a un potentiel extraordinaire. Donc ça, c'était le premier point qu'on a expliqué, l'importance d'aimer son prochain, qu'en vérité, quand on aime son prochain, je me fie pas à ce que je vois, je me fie pas aux apparences. Quand j'aime mon prochain, j'aime en vérité l'âme qu'il a en lui, et l'âme qu'il a en lui est toujours bonne. Elle a pas de problème. Après, on a expliqué un autre point, on s'est arrêté aussi longuement dessus. On a dit, c'est la raison pour laquelle il est l'ancien. Vous vous rappelez quand il voulait convertir la personne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de toute la Torah. Il a dit, mais comment ça peut être la base de toute la Torah? Pourtant, il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et Dieu. Il avait expliqué qu'en vérité, une fois qu'une personne est arrivée à se travailler pour faire en sorte que chez lui, le principal, l'essentiel, c'est quoi? C'est sa neshama. Et que c'est grâce à ça qu'il peut aimer son prochain comme il faut. Une personne comme ça peut aimer n'importe qui, peut aimer tout le monde. On avait raconté plusieurs histoires à ce propos. Des histoires avec le rabbi précédent qui avait expliqué que aimer son prochain, rendre service à quelqu'un, c'est encore plus fort que les plus grands dévoilements célestes qu'on peut connaître. Faire simplement quelqu'un qui est assis à côté de moi, lui demander bonjour, comment tu vas, t'es en galère, viens, je vais t'aider, je t'ai un petit service. Des petites choses comme ça, ça vaut plus que toutes les misottes au monde. Donc on a vraiment beaucoup de misottes qui sont à notre place. Ensuite, on a expliqué, on a dit que quand Chas Veshalom, les Bnei Israël sont séparés les uns avec les autres, Akadosh Baruch Hu ne peut pas résider en nous. Donc c'est un point très important. Pourquoi il faut être unis les uns avec les autres? Parce que Barrenu Avinu Kulanu Keechad. Comment Hachem va nous bénir? C'est si on est tous unis, tous ensemble. Et si on n'est pas unis, Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous bénir. Donc raison de plus pour Ahavat Israël, pour avoir l'amour du prochain. On avait donné aussi, on avait raconté plusieurs histoires à ce propos, et la semaine dernière, on avait raconté les fameuses trois histoires, je sais pas si vous vous rappelez, avec trois types de Ahavat Israël, trois types d'amour du prochain. L'amour du prochain du tzadik qui ne voyait pas le mal, l'amour du prochain du tzadik qui voyait le mal mais qui essayait d'enjoliver la réalité, et l'amour du prochain qu'attend de nous l'Admor HaZaken, qui est, je vois le mal qu'il y a chez l'autre, et pourtant, avec son mal, je l'aime quand même. Là, c'est beaucoup plus compliqué, ça. Donc là, on arrive à la question de M. Benita. Il n'a pas encore posé, mais je la vois dans ses yeux. Alors, il pose une question très simple.
Hein? Merci
d'avoir
posé pour moi.
Donc là, on a...
De me faire engueuler.
Donc, là... Non, il a posé. C'est chaleur. Loin de moi, cette idée. Alors, une question très simple qui est, mais comment c'est possible? Comment tu attends de moi? Bon, quand on est à l'approche, première approche... Il te dit, je vois pas le mal chez les autres. Oui, il voit pas le mal, il voit pas le mal. Il n'est pas vu, pas pris. Deuxième, il te dit, bon, moi, je vois le mal. Mais rappelez-vous l'histoire avec Rabbi Levi Israël Berditchev qui voyait quelqu'un en train de fumer Yom Kippour et qui lui dit, au moins, il ment pas. Bon, c'est une façon d'enjoliver la réalité. Mais le Mourazaken, il va beaucoup plus loin. D'accord? Le Mourazaken, il te dit, tu vois que l'autre, il fait du mal. Et tu dis pas que ce qu'il fait, c'est du bien. C'est du mal. Et pourtant, tu l'aimes quand même. Comment tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur alors que le mal qu'il a, t'es conscient que c'est du mal? Comment je peux continuer à l'aimer alors que je sais que c'est du mal? Ça, c'est ce que l'Admor HaZaken me demande. D'autant plus que il y a certaines personnes pour lesquelles on a une mitzvah de les haïr. Vous vous rappelez? Une personne, c'est écrit que celui qui voit son ami qui a fauté, il doit le dire à son maître. Et ils ont l'obligation, tous deux, de haïr cet élève. Alors, je comprends pas. Si tu me demandes de le haïr, comment tu veux que je l'aime? Là, on a commencé la réponse la semaine dernière. On va reprendre maintenant dans les mots Petrat Hashem pour expliquer longuement la réponse. Umash Amru Bigmar. On est, nous sommes à la page 85. Même ceux qui ont passé jusqu'à maintenant, c'est pas grave. Et un nouveau train. Umash Amru Bigmar. Ce qui est écrit dans la Gemara. Shemi Sheroe Bachavero Shechata. La Gemara nous dit que celui qui voit son ami en train de fauter et qui ne veut pas s'arrêter, nous dit la Gemara, et c'est tranché comme ça dans le Shulchan Aruch, mitzvah lesan oto. Il est une mitzvah de le détester. Et pas seulement ça, vegam lomar le rabosh isna'eu, et même faire passer l'information à son maître, donc au maître commun, ça veut dire que, par exemple, imaginez que j'ai un ami et je le vois en train de fauter, donc, non seulement que moi je dois le haïr, mais je dois le raconter à mon maître pour que lui aussi, mon maître aussi, va le haïr. Comment c'est possible?
On l'entend pas dans la Shonara.
Non, ça, ah, déjà, ça va même arriver à la Shonara. Mais tu n'arrêtes pas de me dire qu'il faut aimer tout le monde, en toutes circonstances, etc. Et que même si tu vois le mal, il faut l'aimer. Je dis, mais attends, une seconde. Non, je suis désolé. Il y a des gens qu'il faut haïr. Ça veut dire, il y a des gens que non seulement on peut haïr, des gens que on doit haïr. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, quand vous voyez des gens, par exemple, comme, sans citer, mais vous voyez, par exemple, des gens comme Netouré Karta, ou des gens comme ça, des gens de la gauche israélienne, de l'extrême gauche, d'accord? Moi, j'ai rien contre la gauche, mais des fois, c'est l'extrême gauche qui sont les ennemis, d'accord? Qui sont nos ennemis dans l'intérieur. Hein?
C'est pas la gauche le problème.
Ah, la gauche, c'est la gauche, il y a la gauche partout.
C'est Netouré Karta, c'est le problème.
L'extrême gauche aussi, c'est un problème.
Tu prends Charles Anderlin.
Quand tu vas voir des gens, quand tu vas voir des gens qui vont aller faire la délation, etc., qui veulent tout rapporter, c'est un problème, ça. C'est un problème. C'est des gens qui sont plus antisémites que les juifs. C'est une réalité, ce que je vous dis. Au-delà de l'approche politique, ça se discute. Bon, tout se discute, il n'y a pas de problème. Mais après, on rentre dans. Ça veut dire que c'est le contraire du patriotisme, c'est la délation.
Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Les Torah Karta, on fait une parenthèse, mais les Torah Karta, c'est des juifs.
C'est des fous.
Ça va. C'est des juifs qui disent qu'ils sont à 100% dans la Torah. Ils sont 100% dans l'erreur.
Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein.
Parce qu'ils considèrent que l'existence de l'État d'Israël empêche le Messie de venir.
Non,
c'est ça l'ordre.
Oui, non, mais ça peut pas justifier.
C'est ça l'ordre.
On peut pas justifier aller s'associer aux ennemis d'Israël, non. C'est des fous. C'est tout. À la base, les Torah Karta, comme dit M. Baruch, c'était des gens qui voulaient pas s'associer au sionisme. Bon, ça c'est une chose. Après, il y a des élèves dissidents qui en ont fait de là à se battre contre le gouvernement.
Mais le Rav Bloy, c'était quand même quelqu'un de remarquable.
Rav Bloy, c'est pas la même chose. Hein. Rav Bloy, il serait jamais parti s'associer avec Ahmadinejad.
Je pense pas, non.
Différent, très très différent. Et l'histoire de Yosele, etc. Bon, enfin, bon, c'est tout un débat, ça. Et bon, on va pas. C'est un débat pour les connaisseurs. On laissera ça après, si vous voulez. Alors, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui, a priori, il faut haïr. Il faut haïr. Combien. Et on sait d'ailleurs, vous savez. Qui mieux qu'un juif peut faire du mal? C'est malheureux, mais c'est la vérité.
Ah, un autre juif, oui.
Pas qu'un autre juif.
Non, en général.
Vous savez, le juif, quand il fait du bien, il peut aller très loin, mais quand il fait du mal, il peut aller très très loin. Il a une puissance, on le sait, ça. On sait que le juif, quand il décide de détruire, il peut aller très 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 loin. Parce qu'on a une force en nous. Alors, quand tu vois un juif comme ça, hein, qui a généré du mal autour de lui, a priori, est-ce que j'ai le droit de le haïr? Alors, si on sait ce que dit la Gemara, elle te dit, d'accord, non seulement que tu peux le haïr, mais tu dois le haïr. Alors, comment ça marche? Comment tu veux que je l'aime? Et là, l'Admorazakaï va rentrer dans un développement. Un développement en plusieurs points. Alors, je vais expliquer ce qui va se passer dans la suite du cours aujourd'hui. D'abord, il va expliquer que le contexte sur lequel la Gemara dit qu'il faut le haïr, c'est un contexte très particulier. Avec plusieurs points qui font que s'il manque un de ces points, j'ai pas le droit de le haïr. Number one. D'accord? On va en parler. D'accord? Donc déjà, il faut définir les contours de cette mitzvah. Parce que c'est une mitzvah de l'haïr. Mais dans quel cas c'est une mitzvah de l'haïr? Ça, il faut expliquer. En plus, il faut expliquer cette personne-là avant de l'haïr. Qu'est-ce que je dois essayer de faire avant? Moi, en tant que personne. Pas de dire, oui, ils ont essayé et ça n'a pas marché. Non, non. Avant que moi je puisse l'haïr, il faut d'abord que moi je cherche à l'aider. Et après seulement je pourrai l'haïr. Mm-hmm. Donc c'est la deuxième étape. Et troisième étape, ce qu'on va expliquer dans le cours, c'est que même s'il y a ces deux conditions qui sont réunies, à savoir, c'est une personne que la Torah me demande de haïr, avec toutes les conditions réunies. En plus, j'ai essayé de régler la situation par l'amour, ça n'a pas marché. même si ces deux points sont réunis, viendrait la troisième étape qui te dit que ce n'est pas incompatible d'aimer et détester quelqu'un en même temps. Mais ça, il faut expliquer. Parce que ça, normalement, c'est impossible. Normalement, c'est impossible d'aimer et détester quelqu'un en même temps.
Merci.
Normalement, vous savez, le cœur, c'est binaire. Soit il aime, soit il aime pas. Pas comme la tête. Vous avez expliqué une fois. Pourquoi les téfilines du bras, il y a une cavité. Alors que dans les téfilines de la tête, il y a quatre cavités. Pourtant, c'est les mêmes parachas. Vous savez qu'il y a quatre parachas dans les téfilines du bras. Quatre parachas dans les téfilines de la tête. Mais dans les téfilines de la tête, les quatre parachutes sont mis dans quatre compartiments différents, alors que dans les téfilines du bras, les quatre parachutes sont mis dans une seule cavité.
Ce sont les mêmes parachutes.
Les mêmes. Ah oui, bien sûr, les mêmes. Pourquoi? Très simple. Le Zohar explique, il dit, parce qu'en fait, c'est la différence qu'il y a entre le cœur et l'esprit. L'esprit est compartimenté. Dans l'esprit, on peut avoir ça qui passe pas. C'est-à-dire, dans l'esprit, c'est pas un problème d'adorer ce point chez quelqu'un et de détester ce point chez la même personne. Le cerveau est capable, c'est pas un problème. Il dit bon, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mais le cœur, c'est pas comme ça. Dans le cœur, c'est binaire. C'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Soit c'est le coup de foudre, d'accord? Soit c'est la foudre. Voilà. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Et donc c'est ça la question. La question, c'est apparemment, dans la troisième étape ici, on va arriver à un niveau dans lequel non seulement on te dit que tu dois aimer, mais on te dit que même si c'est un cas dans lequel la Torah t'ordonne de le haïr, je peux aimer et détester quelqu'un en même temps. Ce qui normalement est impossible. On va développer, on va expliquer comment. Voilà les trois points qu'on va développer dans le cours d'aujourd'hui. Comme ça, vous avez le plan. Okay? On va commencer maintenant par le premier point. Premier point, à savoir expliquer dans quel cas la Torah nous dit qu'on a le droit et l'obligation de haïr quelqu'un. Ça s'applique à qui? À quel type de personne? Donc d'abord, il faut analyser qui lui il est et qui moi je suis. Et il faut les deux conditions réunies. Vous me suivez? Ça veut dire, pour pouvoir haïr quelqu'un, je veux d'abord analyser qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, et quel rapport on a lui et moi. C'est seulement une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions qu'on te dira est-ce que j'ai le droit de le haïr ou pas. Dans les mots. Il dit, l'Admorazaken, il dit de qui on parle, quand on dit que... Quand la Gemara elle nous dit qu'une personne qui voit son ami en train de fauter, il a la mitzvah de le haïr, et pas seulement la mitzvah de le haïr, il a même la mitzvah de le dire à son maître qui va le haïr lui aussi. Haïn ou bachaver ou betora ou mitzvah. De qui on parle? On l'a mentionné rapidement la semaine dernière, de qui on parle? On parle d'un ami. C'est quoi un ami? C'est un ami qui est du même niveau que moi dans la Torah et les mitzvot. Ça veut dire, déjà d'emblée, on te dit, il faut que ce soit quelqu'un qui a fait le même parcours que toi.
Donc ici, j'ai pas d'amis déjà.
Non, mais c'est de cet ami qu'on parle. Quand on dit l'ami que tu veux haïr, d'accord, que tu dois haïr, c'est une personne qui a fait le même parcours que toi, qui était religieux comme toi, qui est conscient de la gravité de la faute comme toi. Ouais, ça reste à prouver. Et pourtant, il faute, et pourtant tu le réprimandes, et pourtant il écoute pas. Bon, ça c'est déjà un cas particulier. C'est-à-dire que là, on a ce qu'on appelle dans la définition talmudique, une personne qui est Shana ou Piresh. Shana ou Piresh, c'est une personne qui a étudié, et qui connaît, et qui a décidé d'arrêter. Et pas il a décidé d'arrêter parce qu'il a craqué. C'est parce que volontairement, il a décidé de changer. Et moi, j'essaye de le réprimander, il veut pas écouter. Donc ça, c'est déjà la première condition. Première condition, c'est, on te dit attention de qui on parle ici. On parle d'une personne qui est ton ami dans la Torah et des Mitzvot, c'est-à-dire qui est au même niveau que toi. Et là effectivement, Morazaken te dit, une personne comme ça, il faut prendre un peu de distance de lui. D'accord? Pourquoi? Parce que, bon, tu risques d'être influencé, et aussi il faut lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est grave. Maintenant, cette personne-là, et ça c'est très fréquent ça, tu vois une personne que tu connais, qui fait quelque chose que tu ne t'attends pas de lui. Cette personne, ça peut être ta femme. D'accord? Elle a fait quelque chose, et tu t'attends pas à ça d'elle. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, hop, t'as envie, enfin, ça peut être un ami, ça peut être une femme, etc. T'as un sentiment de haine qui monte. Attention. Avant de haïr quelqu'un, faut d'abord te poser la question. D'accord? Lui, il a fait la bêtise, c'est clair. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Je le connais, il a fait le même parcours que moi. Bon, c'est quelqu'un qui est comme moi. On a fait le même parcours, on a parlé longuement ensemble. Je sais qu'il est conscient de la gravité de ce qu'il fait, et pourtant, il le fait. D'accord. Mais est-ce que tu l'as réprimandé? Avant de le haïr, avant de le critiquer, est-ce que tu l'as réprimandé? Vous savez qu'on n'aime pas faire de réprimandes. C'est très facile de critiquer, mais réprimander, on n'a pas envie de faire. Quelle est la différence entre une critique et une réprimande? Si en français, il y a deux mots, c'est pas des synonymes, c'est parce que ce sont deux définitions différentes. c'est quoi la différence d'après vous entre critiquer et réprimander? Vas-y, David, une question pour toi.
Alors... Critiquer, c'est négatif, et réprimander, c'est plutôt positif.
Voilà, par exemple, ta femme, ou ton fils, ou ta fille, etc., ils font un truc, ils te cassent les pieds. Donne-moi l'option critique, non. Donne-moi l'option réprimande.
Non, critique, c'est tout boule, direct.
Non, critique.
Bah oui, critique, c'est critique.
Non, non, attendez, écoutez bien. C'est une question importante que je pose.
Non, critique, c'est quand on essaye de lui dire.
Réprimande, c'est pour essayer de le réparer.
Hein,
de
réparer. Là, il y a des critiques dans tout.
Bon. Non, je ne parle pas des critiques.
Essayer de réparer.
Quoi ?
Réprimande, c'est peut-être essayer de réparer.
Alors, c'est quoi une réprimande ? Une réprimande, c'est quand ça me fait de la peine que la personne va pas bien, j'ai envie de l'aider, donc je le réprimande. Comme mon enfant qui a fait une bêtise. Bon, j'aimerais l'embrasser, j'aimerais pas le punir. Mais je sais d'un autre côté que si je vais le laisser comme ça, je sais pas ce qui va devenir. Donc, je lui fais des réprimandes. C'est pas pour le critiquer. Au contraire. Le but de la réprimande, c'est quoi? C'est d'essayer de réparer. Alors que, deux secondes, lorsque je critique quelqu'un, c'est pas pour le blesser, pas forcément pour le blesser, mais c'est pas forcément pour réparer.
C'est pour donner l'appréciation.
C'est parce que je veux dire ce que j'en pense. Parce que je me suis pris pour un commentateur. Oui, bien sûr. Ça, je suis pas encore entré dedans. Pas encore entré dedans.
Merci.
Donc, te dis l'Admor Hazaken, mais je vais y aller. Te dis l'Admor Hazaken la chose suivante. Je te dis, regarde, c'est très simple. Tu as une personne qui est comme toi, qui a fait le même parcours que toi, qui a grandi comme toi dans une maison de Torah, et qu'un jour il décide de faire des bêtises. Il fait une bêtise spécifique. Et c'est pas qu'il a eu un malheur dans sa vie, qu'il est passé par la Shoah ou je ne sais quoi. Dieu préserve. Non, du jour au lendemain, il a un genou qui vient dans la tête comme ça, et il décide, pas qu'il commence à faire le fou. Hein? Il est fou, il devient fou. Alors, mais là, la vérité, c'est que c'est des circonstances atténuantes. Il devient fou, il commence à faire n'importe quoi. Alors, on te dit, c'est facile tout de suite de le critiquer, de dire, ah ouais, c'est un rachat. Attends. Avant de le critiquer, est-ce que tu as essayé de lui parler? C'est beaucoup plus facile de dire, ouais, laisse tomber celui-là, il a tout lâché. C'est beaucoup plus facile de directement de donner un verdict, de dire, laisse tomber, c'est mort, celui-là, il a quitté le chemin, que d'essayer de lui parler. On n'a pas envie de parler avec les gens, on n'a pas envie de les réprimander. Parce que quand tu réprimandes quelqu'un, automatiquement,
pour qui tu te prends.
D'accord, voilà, pour qui tu te prends, et surtout, tu risques de prendre des coups. Ouais. Non, mais tu risques de prendre des coups, c'est-à-dire quand tu viens là, tu te mets devant, tu affrontes quelqu'un, tu risques de prendre des coups, t'as pas envie. Par contre, être là, David, t'as fait une bêtise, venir te voir, j'aime pas trop venir te voir, enfin, j'ai rien contre toi.
Mais on va
par contre,
toi.
Aller en parler, je dis, ah bah tiens, Marcel, mais t'as vu David, d'accord. C'est beaucoup plus facile, parce que ça m'engage en rien. Ouais. Une critique, ça m'engage en rien, alors qu'une réprimande, ça m'engage. Donc tu dis à Edmond Razaké, t'as dit, avant de haïr ton prochain, d'abord, est-ce qu'il est au même niveau que toi?
Si vous voulez, d'ailleurs.
D'accord. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu as essayé de le réprimander? Maintenant, lorsque la Torah me demande de réprimander, ok? Bon, réprimander, il y a réprimande et réprimande. Il y a la réprimande, je dis, voilà, je l'ai réprimandé pour dire que je l'ai fait. Comme ça, on ne dira pas que je ne l'ai pas fait. Du style, quelqu'un fait une bêtise, je lui fais la remarque, comme ça je me dis, si à un moment, après 120 ans, on me dit pourquoi tu l'as pas fait la remarque, je dis, ah, je lui ai fait la remarque. Ça, c'est une réprimande qui est là pour me protéger. C'est pas une vraie réprimande. Une vraie réprimande, c'est quand, tant que le problème n'est pas arrangé, ça me dérange. Donc ça veut dire que je ne lâcherai pas la personne qui a fauté, je le répéterai autant de fois qu'il faut, sans le lâcher, jusqu'à qu'il fasse teshuva. Maintenant, c'est pas que je vais lui répéter comme une grand-mère tunisienne, répéter 1000 fois. Vous savez, je vais raconter l'anecdote une fois. Hein. Une fois, il y avait un terroriste arabe. Ils essayaient de le faire parler. Ils ont amené le Shabak, le Mossad, etc. Impossible. Impossible de faire cracher le morceau. Et à un moment, attendez, écoutez l'histoire. Et à un moment, il y a un des agents du Shabak qui rentre chez lui. Et sa mère, elle voit qu'il est pas bien. Elle dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, il y a quelqu'un, on sait qu'il détient beaucoup d'informations, on n'arrête pas d'essayer de le faire parler, il veut pas parler. Mais, t'inquiète pas, laisse-moi, je veux venir. La mère, elle va là-bas. Une heure plus tard, elle ressort avec toutes les informations. Ah, ils sont babas. Shabak, Mossad, ils sont comme des fous. Elle dit, mais comment vous avez fait? Alors, ils ont dit, on va revoir la vidéo, parce que tout est filmé, on va revoir la vidéo, qu'est-ce qu'elle a fait? Très simple. Dès qu'elle est rentrée, il dit, dis-moi, il a craqué, il a sorti. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle ici de réprimande, c'est pas que réprimander, je vais répéter 1000 fois la même chose. C'est pas de ça qu'on parle. On parle que je vais utiliser ma tête pour essayer de réfléchir de 100 façons, la Gemara dit 100 fois, 100 façons différentes, comment je vais essayer de réprimander et d'encourager mon ami à arrêter de faire ce qu'il fait? Alors, je vais tout essayer. Je vais essayer la méthode dure, je vais essayer la méthode douce, je vais essayer de l'inviter à la maison, je vais essayer de lui parler, je vais essayer de lui faire la tête, je vais essayer de l'inviter à un café, je vais essayer de faire une balade avec lui, je vais tout essayer. Donc vous comprenez que c'est un travail d'une vie, ça. C'est-à-dire qu'avant de détester quelqu'un, et encore, je ne suis même pas arrivé à la fin, hein, c'est-à-dire déjà, il faut que ce soit quelqu'un qui soit au même niveau que toi. En plus, il faut que tu aies essayé de lui parler. Et pas si tu as essayé de lui parler. Essayez de lui parler de toutes les façons possibles. Fais comme si c'était ton fils. Ton fils qui a un problème. Parce que dire, ah, mais je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, ouais, c'est pas bien, ouais. Bah ouais, je lui ai dit, c'est pas bien. Non, mais non, c'est ton fils. Quoi, tu vas pas savoir lui dire. Tu vas tout faire. Tu vas essayer les cadeaux, tu vas essayer la tréra, tu vas tout essayer. C'est parce que c'est ton fils. T'as fait la même chose avec celui qui était loin? T'as fait la même chose avec ton ami qui est loin de la Torah? T'as essayé avec la même chose? Tant que t'as pas essayé la même chose, tu peux pas te permettre de l'œil.
Pourquoi il parle de ton ami seulement, là?
Ouais. Parce que c'est ce qu'a dit la Gemara.
Pas son prochain,
quelqu'un? Ah non. La Gemara dit Chavero. Le Chaver, c'est le camarade. C'est pas être communiste, mais je voulais pas dire cette traduction, mais la traduction littérale.
Rambam dit son prochain. Lui.
Traduction littérale de Chaver, c'est camarade. C'est quoi un camarade? C'est quoi la définition d'un camarade?
Hein, c'est un ami.
Je vais pas vous ramener aux sources communistes.
Quelqu'un qui est au même niveau.
Égal à égal. C'est ça, camarade. La définition de camarade, c'est une personne qui est égale. Qui est égal à moi. C'est ça, le communisme. Le communisme veut tout, voulait mettre tout le monde au même niveau. D'accord? Le chaver, c'est le camarade.
Tu juges pas, tu le réprimandes.
Tu partages qui là, pas de toi.
Donc.
Non, c'est ton ami, ton prochain.
Te dit l'Admor Hazaken, il te dit.
On partage ce que t'as.
Voilà les conditions qu'il faut. D'abord, numéro un, il faut que ce soit quelqu'un qui est de mon niveau. Deuxièmement, Ugvar kiyembo mitzvat ochear tochiar et amitera. Avant de le haïr, je dois accomplir la mitzvah de réprimander mon prochain. Imsh itra betorah mitzvot, celui qui est avec moi dans la Torah et les mitzvot. Parce que là aussi, c'est très, très important ce qu'il dit ici. On fait pas des réprimandes à n'importe qui. Je peux faire des réprimandes seulement à quelqu'un qui est à mon niveau. Très, très important ce qu'il dit ici. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas à mon niveau, un juif qui est loin de la Torah, qui est pas de mon niveau, c'est une approche déplacé, d'aller le voir, lui faire des réprimandes.
Et c'est à moi de juger que ce monsieur est de mon niveau.
Ben voilà, je donne un exemple. Imaginez par exemple, j'ai quelqu'un qui est loin de la Torah. D'accord? Aller le voir en lui disant, écoute Baba, tu vas finir en enfer avec ce que tu fais, c'est pas bon.
Mais ça, c'est pas le réprimander.
D'accord. Non, mais c'est pas une réprimande, ça. même si c'est une réprimande pleine d'amour. C'est une réprimande qui est pétrie d'amour. C'est pas bon. Parce que, qu'est-ce qu'a dit la Torah? La Torah est très précise dans la Parasha Kedoshim. La Torah a dit, Ochear tochiar et amitera. Réprimander, tu réprimanderas, ça veut dire, tu le répéteras plusieurs fois, ton camarade. C'est-à-dire que qui tu peux réprimander, c'est quelqu'un qui est à ton niveau. Donc, vous voyez de qui on parle? C'est-à-dire que déjà, on te dit, la personne que on va te donner le droit de haïr, d'abord, il faut quelqu'un qui est de ton niveau. En plus, il faut que ce soit quelqu'un que tu as réprimandé, parce que si c'est pas quelqu'un qui est de ton niveau, tu n'as pas le droit de le réprimander. Et c'est là, vous savez, des fois, j'entends des gens par exemple, je dis, mais attends, comment vous faites? Des fois, t'as un juif qui rentre à la synagogue en plein Shabbat, ou en plein Rosh Hashanah, ça m'est arrivé une fois, avec un portable qui sonne. Et la vérité, c'est que des fois, t'as un réflexe, t'as envie de dire, attends, je vais faire un shkamba, celui-là, qu'est-ce qu'il y a avec ce portable à la synagogue? Sourire. Oh. Tu lui fais un sourire. Comme si de rien n'était. Oui, comme si de rien n'était.
Il faut quand même lui expliquer que c'est pas bien.
Bien sûr.
Mais pas les réprimander. Quand même le réprimander.
Mais attends, attention.
Le critiquer un petit peu.
Non, justement. Ça veut dire, ni critiquer, te dire, ah, t'as vu cela, il vient Rosh Hashanah, il croit, etc. Ni réprimander, du style, monsieur, vous savez, c'est très grave ce que vous faites, etc. Tu dois essayer juste de lui parler. Lui parler. Parce que réprimander, j'ai pas le droit de le réprimander. Donc vous comprenez que quand on...
Pourtant, c'est un réflexe.
Pourtant, c'est un...
T'as envie de le réprimander.
Ah oui, non, mais ça... non, le réflexe, c'est de le critiquer.
Non, bah, si réprimander, dire, qu'est-ce que tu fais avec ton portable,
je vais t'expliquer. Marcel, t'expliquer. La différence entre une critique et une réprimande, c'est que dans la réprimande, je veux son bien. Dans la critique, je vais exprimer le fait que ça me dérange. Honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne, ce qui me vient en premier lieu à l'esprit, c'est d'abord la critique. Quand t'as quelque chose qui tape sur le système, c'est pas tu dis, je vais lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait parce que j'ai de la peine pour lui. D'abord, ça me tape sur le système et moi j'ai envie de lui dire qu'il arrête parce que ça m'énerve à moi. Faut être honnête. Ça veut dire que, d'abord, ce qui me vient à l'esprit, c'est la critique. On te dit, non, t'as pas le droit de critiquer. Tu dis, bon, alors je vais réprimander, je vais son bien. Tu dis, attention! Tu ne peux réprimander seulement quelqu'un qui est à ton niveau. S'il n'est pas à ton niveau, tu ne peux pas réprimander. Ou il est à mon niveau, ou bien c'est une personne que je suis habilité pour lui faire des critiques. Par exemple, c'est mon fils. Ça veut dire que je suis dans le cadre de mon travail de le réprimander. Ou bien ça peut être, par exemple, un rabbin par rapport à des fidèles. qu'il est dans le cadre de son travail. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est au même niveau. C'est dans le cadre de son travail de devoir de temps en temps recadrer. Ça, c'est autre chose.
Enfin, le terme réprimandé hein est plus fort.
Quelqu'un qui reste pas en gueule, ça va. Hein. Plus...
En français, le terme réprimandé.
Bien sûr.
On n'est pas au même niveau.
Quand tu as critiqué, on n'est pas au même niveau. Déjà, quand tu critiques, c'est parfois en fonction de l'intention, en fonction de recherche de solutions. Tu peux critiquer pour trouver, tu vas chercher des solutions. Réprimandé, il y a la connotation déjà.
Oui, mais une critique, c'est négatif.
Est-ce que le chute, c'est une réprimande?
Ça dérange pas que c'est plus fort. Mais une critique, c'est négatif. Alors que
pas forcément.
Dans le sens qu'on le dit en tout cas.
Réprimande, c'est beaucoup plus fort.
Non, mais dans, une réprimande, c'est positif. On peut donner la définition, hein, si vous voulez.
Une réprimande, c'est plus fort.
Regardez, je vais vous donner la définition exacte.
Pour moi, c'est genre. Non, c'est possible, mais pour moi, c'est genre.
Ou c'est une critique.
Réprimande, c'est plus.
Alors, critique. Voilà, critique. Alors, article, bon, voilà. Critique, alors il y a plusieurs définitions. D'abord, une critique, ça peut être article de presse portant un jugement, etc. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. Là, il y a une autre définition. Jugement défavorable, blâme, reproche. Formuler des critiques. Il émet des critiques à tout propos, elle ne supporte pas la critique. Bon, il, elle, comme j'ai nommé tout le monde. C'est de ça que je parle. C'est la critique. Alors que quand tu prends la définition de réprimande, d'accord? Voilà, réprimander. Alors, non. Enfin, non.
Enseigner.
Réprimande.
Une remise.
Une genre de punition.
Voilà, réprimande. Attends.
Pas de critique. Il y a critiquer et la critique. C'est pas tout à fait la même
chose. Alors, réprimande. D'accord.
Demande-lui si.
Alors, réprimande, c'est reproche.
Voilà.
D'accord. Un reproche que tu lui fais.
C'est pas.
Ah oui.
Reproche, ça se rapproche.
Mais c'est moins fort.
Il n'y a rien de positif dans une réprimande.
Non.
Il n'y a rien de positif dans une réprimande. Il n'y a que du négatif.
Encore moins dans la critique.
Non, la critique, ça peut sortir par le haut, une critique.
De toute façon, un reproche, pas forcément une critique.
Une critique, c'est abus constructif parfois. C'est pas un truc négatif, mais tu peux le tourner un peu.
Alors, comment tu fais?
C'est pas forcément négatif.
Non,
il y a la critique positive, mais c'est moins fort, la réprimande.
On parle pas de la critique.
Ah non, moi,
ça dépend de l'intention, la critique que tu y mets.
Ça dépend. Bon, non, mais dans une réprimande, c'est positif.
Non.
Bon, ce que je veux. Voilà, tu vois. En fait, je t'expliquais, parce que en fait, quand on voit le synonyme de la réprimande, d'accord. Alors bon, ça dépend. Tu as admonester, faire de, etc. Bon voilà, moraliser, rappeler à l'ordre, remettre à sa place, d'accord. Gourmander, tu connais ce terme. Redresser, semoncer, d'accord. Etc. Moi, pour moi, c'est le bon terme, c'est. D'ailleurs, même au Québec, brasser. Vous connaissez, vous brasser?
Brasser, c'est-à-dire que.
Chauffer les oreilles.
De la bière, voilà.
Chicaner. Parler dans le casque, ah. Ramasser. Serrer les huiles.
Parler dans le casque, vous connaissez,
ouais, serrer les huiles.
Serrer les huiles. Bah, c'est pas mal, hein.
Tu vois des expressions étrangères, ça.
Ça, c'est Québec, ça, c'est le Québec.
Ah, voilà, c'est
un dictionnaire. Non, ils me donnent tout. Ils me donnent les Français, les Belges, les Français, les Belges, les Québec, ils me donnent tout. Pas mal, c'est un bon truc, ça m'aide beaucoup. Alors, on reprend. Donc, la Morazaka nous dit ici deux points. Déjà, on est dans le deuxième point. Premièrement, il te dit, il faut que ce soit clair de ton niveau. Deuxièmement, avant de le haïr, il faut d'abord lui faire des réprimandes. Réprimandes, ça veut dire lui faire d'abord, peut-être des reproches, si tu préfères le terme reproche, d'accord. En tout cas, lui faire un reproche, pas une critique. Lui faire un reproche parce qu'il est de ton niveau. Et tout faire pour essayer qu'il accepte ce reproche. Maintenant, vous savez que dans la Torah...
Il ne change pas.
Ok, d'accord. Voilà.
Jusqu'à 100 fois, tu dois le dire.
Vous savez, le passage qui dit comme ça. Quand on voit dans la Parasha Kedoshim, c'est très intéressant. La juxtaposition des mitzvot. Dans la Parasha Kedoshim, tu vois, dans le même passage, tu as 3-4 mitzvot. Écoutez ce passage. Ocheach tochiach et amitera. Réprimander, donc faire des reproches, on va dire reprocher si vous voulez. Tu reprocheras ton prochain, ton camarade. Velotissa à la frette. Tu ne lui feras pas porter la faute. Ve'afta le rara kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'éternel. Vous voyez comment il est concentré ce verset? Je reprends. Je lui ferai des reproches. Je ne lui fais pas porter le blâme. Et je l'aime. Pourquoi ces trois étapes? Pourquoi ces trois dans cet ordre? Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. D'abord, le premier point, c'est que quand je vois Amitecha, quand je vois un collègue, un camarade, quelqu'un qui est de mon niveau qui faute, d'abord je dois essayer de lui faire des reproches, des réprimandes, de dire c'est pas bien ce qu'il fait. Et d'essayer, reprocher tu reprocheras, réprimander tu réprimanderas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer, la dit la Gemara, à filou mais à pas même 100 fois. Je vais essayer par tous les moyens. Ensuite, si je vois que ça marche pas, qu'est-ce que je dis? Je dis, ben voilà, j'ai essayé, il veut pas écouter. Viens, la seconde de la Torah, elle te dit non. Mais lui fais pas porter le blâme, le problème il est pas chez lui, il est chez moi. T'as pas été assez convaincant.
Faut le frapper, ce marqué.
Non,
il faut que lui, il te frappe.
C'est très fort. La première fois, il faut le frapper.
C'est très fort. C'est très fort, ça veut dire, on te dit, il m'a pas écouté. Tu dis là de Morazaken, tu dis attention, il t'a pas écouté. Ne lui fais pas porter le blâme.
Tant qu'il t'a pas frappé, c'est que tu l'as pas.
Le blâme qu'il t'a pas écouté, c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Parce que quand tu l'as fait, il a pas senti que tu le faisais pour lui. Il a senti que tu le faisais parce qu'il fallait le faire. Donc tu ne parlais pas, ça l'intéressait pas.
Ça fait très belle chien.
Ah bah bien sûr, mais c'est magnifique. Mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est-à-dire que des fois, tu fais un reproche à quelqu'un, tu le fais pour dire que tu l'as fait. Quand vraiment on veut régler un problème, on le règle.
Mais qui suis moi pour lui dire
ça? Tu es son prochain,
parce que c'est mon camarade. On a grandi ensemble. Parce que ça, c'est dans le cadre de mon devoir de lui faire un reproche.
C'est dans le même bateau que lui.
Mais comment on peut savoir que lui, il est du même niveau que nous?
Ah bah c'est justement, si tu sais pas, tu sais pas.
Donc, alors dis rien, si
dis rien.
Si c'est quelqu'un qui est pas de mon niveau, je dis rien.
Je dis rien.
Je peux rien dire.
Non, je peux lui. Dans ce cas-là, je peux lui apprendre quelque chose, mais je peux pas le haïr. Là, on parle de la mythe dans un cas dans lequel j'ai la mythe de le haïr. Ça veut dire haïr ou faire des reproches. On te dit, tu ne peux pas faire des reproches et tu ne peux pas haïr quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un qui est pas à ton niveau. Et même s'il est à ton niveau, d'abord tu dois essayer de lui parler, d'accord. Après, tu dois être sûr qu'il est à ton niveau. D'abord, tu dois essayer de lui parler. Et après, seulement tu vas lui faire des reproches. Et si les reproches ne marchent pas, on te dit, bah, peut-être t'as pas été assez convaincant. Parce qu'il y a un mot de la Gemara qui dit, les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Et si elles ne sont pas entrées dans le cœur, c'est qu'elles ne sont pas sorties du cœur. C'est très grave ce que je vous dis. La vérité, c'est que moi, ça me tue de dire ça. C'est-à-dire, des fois, tu essayes de parler à quelqu'un pour le ramener à la Torah, et ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, quand tu sors de sa boutique, tu sors, etc., tu dis, le problème, il est chez moi.
C'est comme dans la vidéo, le cœur qui est à gauche.
C'est dur de dire ça.
Enfin, c'est ça. Face, il c'est lui qui fait la faute, mais c'est moi qui suis.
Non, j'ai pas dit ça, non, non. J'ai dit, si mon propos n'a pas été percutant, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute.
Vous êtes dans le même bateau, c'est votre ami.
Oui, donc je remets finalement le.
Et ça la vérité, on le sent. La vérité, je vous dis, moi, en tant que. Voilà. En tant que personne qui prend la parole, je le sens que des fois, on a des paroles, tu sens qu'ils te sortent du cœur. Et ça percute tout de suite. Tu vois tout de suite. C'est-à-dire, tu parles 30 secondes, pas que ça percute. Des fois, tu sens que, bon, bien sûr que c'est un propos qui est construit, qui est intéressant, mais qui te sort pas forcément du cœur. Et là, tu sens que t'as parlé une demi-heure, mais t'as rien fait. Non, pas forcément. Parce que quand t'es percutant, il devient réceptif.
Percutant comme ça.
Alors, quand c'est percutant, ça passe. C'est ça. D'accord. Donc ce que tu dis ici, là, de Morazaken, c'est comme voilà, pour moi un chapitre comme le chapitre 32, bon tout de suite voilà.
C'est difficile,
Très difficile. Ah ben bien sûr. C'est un métier dans lequel on fait porter le blâme tout le temps quoi.
Très difficile d'être juif.
Ah oui. Ça veut dire que quand t'as une réussite, t'es content, mais quand t'as pas de réussite...
Le mieux, c'est de pas avoir d'amis quand t'es tranquille.
C'est pas comme ça qu'il vit là.
J'étais souvent sur Facebook, alors.
Mais David,
non, mais c'est pas des vrais
David, amis. L'ami, c'est déjà ta femme.
Mais ta femme, elle a pas le même niveau que toi.
Qu'est-ce que t'en sais?
C'est bien sûr. Non, c'est pas évident.
Bien sûr, c'est le même niveau que toi.
C'est évident.
C'est sûr. Au-dessus de moi.
Hein? Tu te maries, vous êtes au même niveau.
Mais non, on parle de niveau d'études, on parle de...
Non. Je parle de camarades.
Si ta femme se plante, tu vas la laisser se planter, tu vas pas lui dire. Tu vas dire quelque chose à sa femme, elle va le foutre dehors.
Elle a la rote, j'ai les miens. Hein. Chacun il a ses lois. Hein. Chacun fait sa loi.
Regarde les chars. De la boutique.
Hein. Il me reste moins ça. Mais bon, ça c'est des gardes en route de secours.
En route de secours. Bon, alors on reprend.
Vas-y toi.
D'accord.
Mais surtout ne la critique pas. Hein.
Donc j'étais en train de dire.
J'ai essayé.
J'étais en train de dire. Dans quel cas j'ai le droit de faire des réprimandes seulement quand c'est quelqu'un qui est de mon niveau. S'il n'est pas de mon niveau, j'ai pas le droit de faire des réprimandes. Si maintenant c'est quelqu'un qui est de mon niveau, j'ai essayé de lui parler, je le fais des réprimandes, et il écoute pas. Ve'afal piken le chav mecheto, et quand même, il a pas fait teshuva de sa faute. Là, à ce moment-là, on te dit, bon, on n'a plus le choix que de le remettre en place, et là, dans ce cas-là, effectivement, on va devoir le haïr. Aval, je termine le développement. Aval, cependant. Mi sheino chavero, celui qui n'est pas son ami dans Torah et Mitzvot. Ve'ei no mekuravetzlo, et que c'est pas qu'il y a un ami à moi. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs conditions. Ça veut dire, il faut que ce soit quelqu'un qui fait le même parcours que moi. Il faut que ce soit quelqu'un qui a grandi avec moi, que je connais. Il faut que ce soit quelqu'un que j'ai essayé de lui parler, et ça passe pas. Et pas une fois, pas 10 fois, 100 fois, et que c'est pas passé. Là, on te dit, bon, tu peux te permettre de le haïr. Rabotai, avant d'arriver à ça, Hanoum Verarum, hein.
Exactement.
Ouais, ouais. Ta femme, t'es sûr?
C'est pratiquement impossible.
C'est pratiquement impossible. Vous l'avez compris, c'est pratiquement impossible. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qu'on peut haïr.
Non, mais ce que tu mets en exergue, c'est cet effort qu'il faut déployer.
Oui.
Pour justement agir sur cette personne.
Oui, mais de là, on a compris.
Shalom Bayit, t'as compris les parents Engel?
J'ai pas le droit de réprimander. Dans quel cas, qui je peux réprimander? Je peux réprimander c'est quelqu'un qui est à mon niveau.
Les conditions sont très
élevées. Quelqu'un qui n'est pas à mon niveau, j'ai pas le droit de réprimander.
Parents Engel, c'est une des conditions.
Je peux pas lui faire de réprimander.
C'est une des conditions.
Et tu dis ça avec la bouteille fermée. T'es fou, toi.
Alors, vous savez.
J'attendais que tu m'en parles.
Ah, si.
Oups. Oui.
Mickaël, t'as besoin.
Réchauffe-le, Mickaël.
Hein? Ce sont les questions, préparez-vous.
Vous savez ce que dit le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, Adel Chaim. Rabbi Yosef Yitzhak, il dit comme ça.
On va pas regarder 3 semaines, en passant.
Il dit que lorsque c'est une personne qui est proche.
Il y a
Adel Chaim.
Ma femme m'a laissé soir.
Ah bon, alors ça va.
Il dit qu'il a besoin d'une goutte, ça suffit.
T'as laissé sortir.
Rennes.
Un peu de carburant ici, un peu de gazole. Gazole.
Pour toi,
ça, là-bas. Non, pour lui.
Où là-bas?
Hein?
Vous me dites quand j'arrive au verre de M. Barrois, vous me dites.
Il en veut pas ce soir, t'as pas de chance.
Et les anciens,
ça, c'est une mauvaise réprimande, ça.
C'est pour qui, ça?
C'est pas une réprimande.
C'est quoi?
C'est à la demande, à la carte. C'est tout? Il faut servir à la carte.
L'as de pique, il boit. Les autres, non?
C'est bien, vous allez me servir. Ouais,
alors, Yves.
Et le vôtre, Yves.
Parce que des fois, pour sentir le goût, il faut prendre une gorgée. On peut
rassembler. Une petite goutte, hein. Une gorgée. Stop! Stop!
On n'a pas les mêmes origines, hein. Polonais?
Non, je veux pas.
Hein? Vous êtes polonaise? Hein? Française? Frenchy. Les Chaim.
Les Marocains, ils l'ont un peu plus que les autres. Parce que...
Eh Chaim,
Chaim. Steven, je te sers. Ah, t'es servi?
Ok. Allez, Chaim.
Et M. Benita, il lui prend un gobelet.
Il a un devant lui. Il a mis ses olives dedans.
Je suis en train de dire que l'Admoura Zaken, pardon, le Rabbi Yosef Yitzhak, rabbi précédent, disait la chose suivante. Il disait que lorsque c'est quand on nous demande particulièrement de quelqu'un qui a grandi avec moi, qui est un ami dans Torah et Mitzvot, Rabotai, vous suivez? Un point très important que je veux dire. Pourquoi on me dit que quand c'est une personne avec qui j'ai grandi, qui est de mon niveau, j'ai essayé de lui parler, là dans ce cas-là, j'ai l'obligation de prendre les distances avec lui? Le rabbi précédent explique, il dit parce qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que quand c'est quelqu'un qui est très proche, autant j'ai une chance de l'influencer, autant il y a un risque qu'il m'influence. C'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes. Et quand on sent à un moment qu'on ne maîtrise plus trop la situation et que ça rentre dans l'oreille d'un sourd, on te dit, il faut prendre un peu de distance. Pas que tu arrêtes de l'aimer, mais il faut savoir prendre des distances. Ça veut dire, et là, Rabotai, c'est très important ce que je veux dire. Ça arrive souvent. On voit des gens qui font teshuva. Et lorsqu'ils font teshuva, ils se sentent Rambo. Ils se sentent que maintenant... Ils vont aller voir leur famille, leurs amis, et pas qu'ils les cognent. Allez hop, vous avez rien compris, je vais tout vous montrer. On te dit doucement.
Je fais toute la vaisselle. Léa.
Doucement. Ne te crois pas plus fort que ce que tu n'es. Pourquoi? Parce que autant tu peux les influencer, autant ils peuvent t'influencer. Il faut apprendre à garder les distances. Pas parce que tu l'es, Chas v'Shalom, mais quand tu sens que tu es dans une phase où tu es encore plutôt fragile, garde les distances. Attends de prendre des forces, après tu vas parler. Tu ne peux pas commencer à faire le fort alors que tu ne l'es pas. En vérité, c'est une phase dans laquelle on est très fragile. Non. Ça, je l'ai vu très souvent. Ça.
Mais on s'éloigne, si je prends les distances, je m'éloigne de vers non,
Takaha. Alors, j'ai pas dit de ne pas l'aimer, c'est ce que je viens de dire. Ouais, je vais l'aimer, je continue à l'aimer, mais je fais attention de ne pas trop m'approcher de lui. Quand je sens que, ça rentre dans l'oreille d'un sourd, dans ce cas-là, je m'approche pas trop de lui. Ça veut dire que très souvent, et là c'est un point important, très souvent, on voit qu'on a du mal à convaincre les gens de sa famille. On peut convaincre des étrangers, on peut les ramener à la Torah ce que tu veux, et des gens de sa propre famille, on n'arrive pas.
Ils sont pas au même niveau.
Non, pas seulement ça. Parce que c'est une autre approche. C'est une approche qui est moins intellectuelle, qui est plus sentimentale, qui est différente. Et du coup, quand je parle avec une personne qui est de ma famille, je sens que je peux lui dire que les choses qui me viennent m'amagent du fond du cœur, que je suis sincère à 100%. Parce qu'il sent tout de suite si je suis pas sincère. Alors que quand c'est un étranger, je peux dire des choses qui sont cohérentes, qui sont logiques, même si ça vient pas à 100% de mon cœur.
C'est pour ça que avec la famille, tu veux pas aller trop loin pour pas t'embrouiller avec eux non plus.
D'abord pas t'embrouiller, mais aussi parce que tu sens que t'arrives pas. C'est très difficile.
Et puis toi, t'es rentré dans
Moi, je vous dis, dans ma famille, j'ai des gens qui sont loin de la Torah, très difficile à parler. C'est pas parce qu'ils sont pas réceptifs. Parce que t'arrives pas à sortir. Des choses que j'aurais pu faire sans problème avec un étranger, avec quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est proche, t'arrives pas à sortir. C'est beaucoup plus délicat. Parce qu'il est déjà proche de toi. Et tu sais qu'il va t'accueillir et te faire un sourire comme ça, c'est pas que tu perds tes armes, mais pratiquement.
Non, mais tu en perds plus,
concernant. Bien sûr. C'est difficile. Difficile. Et c'est pour ça que le rabbi disait souvent, il disait que quand, par exemple, des fois des parents ont du mal avec leurs enfants, surtout, bon, quand ils sont encore petits, c'est facile. Mais quand ils vont grandir, ils vont arriver à l'âge 13, 14, 15, 16 ans, et toute personne qui a des enfants de cet âge-là sait de quoi je parle. À un moment, on sent qu'on n'arrive pas à parler à nos enfants. On sent que ça rentre là, ça sort là. Si c'est rentré. Non, justement, ça sort. Et là, à ce moment-là, on a eu plusieurs lettres. J'ai eu plusieurs lettres du rabbi, dans lesquelles il y avait des gens, des parents, qui étaient désemparés, et qui s'adressaient au rabbi pour demander que faire. Maintenant, ceux qui sont autour de la table, qui ont des enfants de cet âge-là, il faut que je vous dise quelque chose de très important. Même des fois, quand vous croyez qu'il y a une distance avec vos enfants, ne croyez pas que vos enfants ne vous aiment pas. La preuve, et ça je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois, ce même enfant que tu crois qu'il te supporte pas, ce même enfant, s'il va voir, non mais attendez, s'il va être avec des copains, et pourtant ce même enfant il arrête pas de dire à ses copains, ouais mon père il est comme ci, il est comme ça. Mais si il y a un copain qui a le malheur de dire, ouais toutes les façons ton père c'est un imbécile, il va se ramasser une droite. Mais je comprends pas, t'arrêtes pas de lui dire ton père c'est un imbécile. Maintenant c'est moi qui lui... Non, quand c'est moi qui le dis, ça va, pas toi.
Il a le droit de le dire, lui.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, le fils au fond de lui, Chas v'Shalom de dire qu'il est son père. Il aime son père. Mais,
il est en désaccord.
Merci. Un désaccord très profond. Parce que bon, il y a le choc des générations. D'accord? Alors justement, le rabbi donnait le conseil à ce moment-là. Il disait qu'est-ce qu'il faut faire quand les parents sentent qu'ils ont un message à faire passer aux enfants et que le message ne passe pas. Le rabbi dit dans ce cas-là, il faut passer par une tierce personne. Mais sans que l'enfant sache que ça vienne du père. D'accord ?
C'est une très bonne technique.
Parce que ni le père arrive à influencer le fils, et ni le fils arrive à être influencé par le père. Parce qu'il y a trop d'affection et ça décolle trop vite. Tout de suite, ça devient passionné. Ça passe pas. Je pense que toute personne qui a été adolescent il n'y a pas longtemps, ou toute personne qui a des enfants adolescents, sait parfaitement de quoi je parle.
C'est un camarade, la même personne. C'est un ami à
elle. Non, c'est que tout de suite, on passe dans le débat passionné. Donc tout de suite, il y a un blocage. Ça ne peut pas aller plus loin.
Ça peut être un nom.
Surtout que l'enfant, il connaît parfaitement les défauts de son père. Et il a du mal à accepter que son père, avec les défauts qu'il a, lui fasse un reproche. Il dit, mais attends, toi, c'était les défauts. Alors, qu'est-ce que c'est là, me casser les pieds maintenant sur mes défauts? Tout de suite, ça part sur un débat passionné. Tout de suite, ça part n'importe comment. C'est pour ça que dans ce cas-là, quand on sent qu'on n'arrive pas, il faut passer par une tierce personne. Tierce personne, ça peut être un cousin, ça peut être un tonton, ça peut être quelqu'un qu'on sait que le fils respecte. On va parler discrètement à l'oncle, on va lui dire, écoute, à l'occasion, quand tu parles avec mon fils, essaie de lui parler de ça. Sans qu'il sache rien de moi. Tu lui parles comme ça par hasard, etc. Mais fais en sorte que ça, on voit pas que ça vient de moi. Moi, je peux vous dire que je l'ai fait plusieurs fois pour des parents et ça marche. Ouais, plusieurs fois. Des parents qui sont venus me parler, qui m'ont dit, voilà, j'ai ça. Je dis, écoute, fais comme si tu m'as rien dit. Et après, au hasard d'une discussion, hein, hop, on s'arrange pour raconter une histoire, pour raconter un truc. Et lui dit, ah, ça, j'ai pas pensé à ça. Voilà. Parce que des choses qui viennent de façon indirecte passent beaucoup mieux. C'est ce que te dit ici l'Admor Hazaken. Mor Hazaken te dit ici que on ne fait pas des reproches à n'importe qui. On fait des reproches à quelqu'un de qui on est proche, mais même quand on est quelqu'un de qui on est proche, il faut faire attention non plus de ne pas trop s'approcher. De, à un moment, savoir que c'est pas mon j'arrive pas, je laisse le reproche à faire avec quelqu'un. En tout cas. Attends, te dit l'Admor Hazaken, on dit maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a trouvé Hanun Verachum? On a trouvé quelqu'un qui répond à tous ces critères. Ça veut dire, il a grandi avec moi, dans le même quartier que moi, dans la même rue que moi, dans une famille du même type que moi, il a grandi comme moi, il a la même tête que moi, il est passé par la même histoire dans la vie que moi, il est tout comme moi, il fait des bêtises, j'essaie de lui parler. Il comprend que c'est une bêtise, il sait que c'est pas bien ce qu'il fait, d'accord? J'essaie de lui parler 100 fois différent, et vraiment, j'étais sincère, j'étais percutant, et quand même, il continue à fauter. Alors, qu'est-ce que je fais là? Là, la Torah, il faut le haïr. Sauf que l'Admor Hazaken a fait l'attention. On n'a pas encore dit le dernier mot. Et ça y est, j'ai trouvé l'ennemi idéal. Celui-là, je peux, vas-y, celui-là, je peux y aller. Non. Dis l'Admor Hazaken, tu dis non. Tu dis, iné, alzé, on va prendre les mots. Il y a un cas spécifique. C'est très simple. Alors, iné, sur ça, enfin, on va à la page 86. Alzé, Amar, il est la Zaken. Sur ça, il est l'ancien, a dit. Qu'est-ce qu'a dit il est l'ancien? Il a dit. Eve mitalmidav shel Aaron. Efforce-toi de faire partie des élèves de Aaron. Ohev shalom vechoulé. Qu'est-ce qu'on sait de Aaron? La Mishnah de Pirkei Avot dit que Aaron était celui qui aimait la paix. Il poursuivait la paix. Il aimait les créatures et il les rapprochait de la Torah. Ça veut dire quoi? De qui on parle ici? Écoutez ce pshat extraordinaire de l'Admor Hazaken. Il te dit comme ça. Vous savez ce que faisait Aaron? Regardez ce que faisait Aaron. Lorsqu'il voyait quelqu'un dans la rue et que Aaron, avec son inspiration divine, il voyait que cette personne avait fauté. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il faisait un grand sourire. Et l'autre, il se disait, oh là là, si Aaron, il savait les avéras que j'ai fait, il ne m'aurait pas fait un grand sourire. Et de ça même, il fait teshuva. Il se dit, il faut que je fasse teshuva, comme c'est la prochaine fois que je vais voir Aaron. Quand il va me faire un sourire, au moins, je vais me dire que ce sourire était mérité. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est que Aaron voit exactement ce qu'il fait. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Quand même, il va continuer à l'aimer. Il va l'aimer. C'est ce que dit Hillel. Hillel, l'ancien, dit « Efforce-toi de faire partie des élèves de Aaron, celui qui aime la paix et qui poursuit la paix. » Ohev shalom, ça veut dire quoi? Il aime la paix, ça veut dire il aime dire shalom. Il aime dire bonjour, avec un sourire. Il fait un sourire, bonjour avec un grand sourire, comme si il parle avec un grand tzaddik. Bonjour. Maintenant, qui il aime? Ohev et Abériot, il aime les créatures. C'est quoi les créatures? Les animaux? Non. Les créatures. Il faut dire aimer les hommes, il aurait dû dire aimer les hommes. Il aime des gens que leur seule qualité, c'est d'être une créature de Dieu. Vous imaginez celui-là? C'est-à-dire qu'on cherche ses qualités, il n'y en a pas. La seule qualité qu'on a trouvée, c'est qu'il a été créé par Dieu.
Oui, alors donc ce cas-là, ça doit...
Ça veut dire que c'est un bonhomme et qui est... aura des pâquerettes, quoi, qui est tout en bas. Quoi. Et même une personne comme ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot, qui te dit, efforce-toi d'être comme les élèves de Aaron. Enfin, d'être, faire partie des élèves de Aaron. Il aime la paix, il poursuit la paix, il aime les créatures, et il les rapproche à la Torah. Il les rapproche comme ça à la Torah. Comment il les rapproche à la Torah? Il les rapproche à la Torah par l'amour. La Gemara raconte une histoire à ce propos, dans le traité de Taranit. Elle raconte qu'une fois, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a rencontré en route un homme qui était très moche. Très moche. D'accord. Et cet homme dit à Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit « Shalom Alecha Rabbi, bonjour Rabbi ». Et Rabbi Elazar ne lui répond pas. Et en guise de réponse, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu es moche? Est-ce que tous les gens de ta ville sont moches comme toi ?» Bizarre. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient ensemble 13 ans dans la grotte, hein, c'est pas... Bon. Alors l'autre, il s'est pas démonté, et il lui dit « Ah, je ne sais pas si les habitants de ma ville sont aussi moches que moi. Par contre, si vous avez des plaintes à adresser, vous pouvez les adresser à l'artisan qui m'a créé. » Ouais. Donc, adieu. D'accord? Alors, en fait, le rabbi explique que, qu'est-ce qui s'est passé. Quand Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a vu cette personne qui était moche, on parle pas, d'abord, peut-être qu'il était moche physiquement, mais on parle surtout d'une mocheté spirituelle, d'une laideur spirituelle. C'est-à-dire que spirituellement, il était loin. Et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a voulu? Il s'est dit, celui-là, tellement il a des défauts, qu'il faut que je lui dise c'est un rachat. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'es moche? Du style, c'est une catastrophe. Seulement, qu'est-ce qu'a répondu l'autre? Une belle réponse. Il a dit, si t'as des plaintes à adresser, va chez l'artisan qui m'a créé. Sous-entendu, le fait même que je suis une créature de Dieu, c'est déjà une qualité. C'est-à-dire que tu as le plus grand rachat en face de toi, le fait même que c'est une créature des Kadosh Baruch Hu, c'est déjà une grande qualité. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire, c'est que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a compris qu'il est parti trop loin. Alors, il a demandé à ce monsieur de le pardonner. Ce monsieur a refusé de le pardonner. Il a refusé, il dit, je vous pardonne pas. Non, non, pas du tout. Il a dit, bah, j'étais victime, je vous pardonne pas. Ensuite, Rabbi Elazar, il le suit. Et ils font la route ensemble. Et ils arrivent à l'entrée de la ville. Maintenant, à l'entrée de la ville, tout le monde voit Rabbi Elazar arriver. Des milliers de personnes qui viennent l'accueillir. Et là, il y a ce monsieur qui dit, mais attendez, devant qui vous procédez là? Devant lui? Vous voulez que je vous raconte ce qu'il m'a fait? Mais regardez ce qu'il m'a fait dans la route, il s'est moqué de moi. Alors, il a dit, ouais, en plus, il demande pardon, je ne veux pas lui pardonner. Alors, les gens, ils lui ont dit, écoute, pardonne-lui, c'est qui? C'est Rabbi Elazar, c'est le fils de Rishon Bar Yochai, il faut lui pardonner. Il a dit, vous savez, je vais lui pardonner. Mais je vais lui pardonner pour vous, pas pour lui. Comme vous m'avez demandé, que je vois qu'il y a beaucoup qui me demandent, par respect pour vous, je vais lui pardonner, pas pour lui. Et de là, Rabbi Elazar a dit, il a compris que quand on parle, il faut toujours faire attention à comment on parle aux gens. Que même Rabbi Elazar, il a pris un message. Que même si c'est pour ramener quelqu'un, même si c'est pour le but de ramener quelqu'un à la Torah, on peut pas comme ça déchirer les gens. Voilà, Rabbi Elazar, il pensait faire bien en réprimandant la personne. Il te dit, ça marche pas. C'est ce que je te dis ici. Ça veut dire que, même si t'as un cas dans lequel tu dois haïr la personne, jamais avec la haine, jamais avec l'attaque, jamais avec le couteau. Range le couteau. Laisse tranquille les armes. Tsarir le moshran bechevle avotot ahava. Des gens comme ça qui sont loin, il faut utiliser la méthode Aharon, la méthode d'Hillel. C'est quoi la méthode d'Aharon, la méthode d'Hillel? C'est que ces gens-là, il faut les rapprocher avec l'amour, avec un sourire. Vechulaï, et tout ça, veulai, yochal, le karvan, la Torah va avalat Hashem. Tout ça, peut-être, qui réussira avec l'amour à les rapprocher à la avalat Hashem. Très bien. Maintenant, attention, là, on va toucher un autre débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez par exemple, j'ai quelqu'un qui est très très loin de la Torah. Bon, je ne vais pas directement lui mettre sur la tête, donc je vais essayer d'être accueillant avec lui. Je vais lui parler, etc. Je vais l'inviter au restaurant, je vais lui parler, je vais l'inviter à la table de Shabbat, etc. Et dans ma tête, j'ai une petite voix qui me dit, le but c'est quoi de tout ça? C'est que je vais réussir grâce à ça à le faire revenir sur mon chemin. Très bien. Maintenant imaginez le jour où l'autre découvre qu'en vérité, tout ce que je suis en train de lui faire, c'était juste une façade, mais qu'en vérité mon but c'est de le ramener. Donc je suis un missionnaire en vérité.
Il a compris lui. Hein.
Attendez. Donc ça veut dire, je l'invite à prendre des cafés, je parle avec lui, etc. Et je fais ce sourire avec lui. Et finalement, je me dis, tout ça en me disant, peut-être que je vais réussir à rapprocher. Mais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but c'est de le rapprocher. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer, par un moyen
détourné,
de le rapprocher. Dis-lui directement que tu veux rapprocher. En d'autres termes. Est-ce que rendre service à un juif, c'est déjà un but en soi? Ou est-ce que le but ici, c'est je vais le rendre service, je vais l'aimer pour le ramener à la Torah? C'est une question très très importante que je vous pose. Je vous donne un exemple. Quand vous allez par exemple dans les Beit Rabat un peu partout dans le monde, bon, en France il y a moins besoin de ça parce que Baruch Hashem ici est ce qu'il faut à Paris. Le Beit Rabat, une des fonctions premières des Beit Rabat, c'est qu'il donne à manger aux gens. Maintenant, t'as des gens qui viennent manger, et moi je l'ai vu de mes yeux. Bien sûr qu'on va leur proposer après mettre les tefilines, mais il y a des gens qui ne mettront pas les tefilines. Alors, est-ce que pour moi, quand la personne, je lui ai proposé de mettre les tefilines et qu'il ne les a pas mises, est-ce que c'est un fail? Est-ce que c'est quelque chose de raté?
Je vais faire une mitzvah.
D'accord, non, attendez, doucement. Est-ce que c'est quelque chose de raté? Ou bien, je dis non, t'as rendu service injuste, c'est déjà quelque chose de bien.
Oui.
Il faut savoir que ça, c'est une question sur laquelle les courants orthodoxes sont partagés. T'as beaucoup de courants qui vont penser, qui vont te dire, le but, c'est de le ramener à la Torah.
Ça, c'est lui qui va décider.
D'accord. Mais moi, mon but, dans ma tête, c'est de le ramener à la Torah. Et tant que j'ai pas réussi à ramener à la Torah, j'ai pas eu mon but. Ça veut dire que si je vais l'inviter à prendre un repas ensemble, si je vais l'inviter à marcher avec lui, etc., donc je vais investir du temps en lui, il y a beaucoup de courants qui vont te dire, le but de tout ce temps, c'est quoi? C'est de le ramener à la Torah. Et si je l'ai pas réussi à ramener à la Torah, c'est un échec. La Gemara Hazaken va nous apprendre l'approche de la Chassidut Chabad, qui est basée sur le Zohar. Qui te dit pas du tout. Il te dit, il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est de le ramener à la Torah. Bon. Il y a une deuxième chose, c'est que même si je ne l'ai pas ramené à la Torah, le fait même d'avoir rendu service à un juif, c'est déjà quelque chose d'important. Pourquoi ? Je vais expliquer pourquoi. En fait, pour répondre à cette question, il faut remonter au Zohar. Le Zohar pose une question, il dit pourquoi le monde est, pourquoi Dieu a créé le monde ? Dieu a créé le monde, pourquoi il a créé le monde Dieu ? D'accord ? Alors, deux secondes. Est-ce que Dieu a créé le monde pour la Torah ou pour Israël ? Alors, comment beaucoup de gens ont compris ? Écoutez bien ce que je veux dire. Beaucoup de gens comprennent, et c'est comme ça, c'est une idée qui est répandue. Ils disent que, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour la Torah. La Torah, c'est son plan. Et nous, les Bnei Israël, nous sommes des figurants, des acteurs, qui vont accomplir son plan. C'est-à-dire que le but, c'est que le plan soit accompli. Donc, il y a un Dieu, c'est le donneur d'ordre, il y a un plan, et il y a des exécuteurs. Les exécutants, c'est nous. Donc, celui qui réfléchit comme ça, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, le but, c'est quoi ? C'est que le plan soit accompli. Donc, si j'ai devant moi un juif, qui est un camarade qui est là, il y a le plan. Dieu, il a donné un plan. Et que le camarade, il n'accomplit pas le plan. Mon but, c'est de l'amener vers le plan. Si j'ai pas réussi à l'amener vers le plan, si j'ai pas réussi à ramener la Torah, c'est un échec. C'est comme ça que beaucoup pensent. L'Admorazakin te dit non. Tu dis, c'est une erreur. Pourquoi ? Le Zohar nous dit que Dieu a créé le monde pour deux choses. Il a créé le monde pour la Torah et pour Israël. C'est un trio. Il y a Dieu, la Torah et Israël. Bien sûr que le top, c'est quand les trois se rejoignent. Attendez. Le but, c'est quand les trois se rejoignent. Ça veut dire que le juif accomplit la Torah et il se relie à Dieu. Là, j'ai un trio. J'ai un triangle parfait. Mais ça ne change pas. Ça n'enlève pas le fait que le simple fait qu'un juif existe sur Terre, même s'il ne fait pas la Torah, c'est déjà un but en soi. Très très fort, un mot du Baal Shem Tov, ça. Ça veut dire, un juif n'a pas besoin de faire la Torah pour servir à quelque chose.
Il n'est pas connecté au troisième point.
Non, ça ne change pas. Un juif, en tant que personne, il est déjà connecté à Dieu. Maintenant, si...
Par
la Neshama. Il est déjà connecté à Dieu, et le fait même qu'il existe sur Terre, c'est déjà un but en soi. Ça veut dire que quand j'ai offert un café à un juif, quand j'ai parlé avec un juif, même si c'est un renégat, tout ce que tu veux, d'accord ? Le fait même d'avoir rendu service à un juif, c'est déjà un but en soi. Si tu as réussi à faire en sorte que tu l'as ramené, c'est un second but. Et ça, c'est très important parce que des fois, justement, on essaye de parler et des fois, on est sur un échec. On se dit, j'ai raté. Le Marocain te dit, non, t'as pas raté. On peut avoir une réussite et on peut avoir une meilleure réussite. La première réussite, c'est le fait même de rendre service à un juif, ça, c'est déjà important. Et la réussite encore plus grande, c'est que non seulement que je lui ai rendu service, mais qu'en plus, je lui ai rendu le plus grand service de le ramener à la Torah. Mais c'est deux choses qui sont différentes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je sente que je suis passé par un échec lorsque je n'ai pas réussi à ramener la Torah.
Il n'y a personne qui peut dire qu'il a ramené un juif à la Torah.
Je te donne un exemple, David. Imagine-toi, par exemple, tu as quelqu'un de ta famille qui est loin de la Torah. Et tu l'invites Shabbat à table. Avec une petite voix au fond de toi qui te dit, peut-être que je vais lui donner le goût du Shabbat. Dans les faits, ça ne marche pas. Et que dans les faits, ça ne marche pas. Et que peut-être, il y a une petite voix au fond de toi qui va dire, la vérité, ça ne marche pas. Pas, je perds mon temps, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que te répond l'Admor HaZaken ? Tu dis oui, ça marche. Non, ça marche pas comme tu voulais. Ça marche dans une autre dimension. Le fait même de rendre service à un juif, t'as donné à manger à un juif, c'est déjà un but en soi. Ça même, c'est déjà un but. Après, si en plus de ça, t'as pu lui donner le goût du Shabbat, bon, c'est un but supplémentaire. C'est très très puissant, ça. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas des missionnaires. On n'est pas là pour avoir un résultat. S'il y a le résultat, tant mieux. Il n'y a pas le résultat. Bon, j'ai rendu service à un juif. C'est très très important ce qu'on est en train de dire ici. Sachez que ça, c'est une approche, j'ai pas envie de dire unique, mais c'est une approche qui est très très novatrice, d'accord ? C'est une approche qui vient de l'Admor HaZaken. Et beaucoup de courants ne pensent pas comme ça.
Et qu'est-ce qu'ils pensent alors ?
Ils pensent que le but, c'est qu'un juif fasse accomplir la Torah. Et là, je vais vous donner des exemples. Pour vous montrer jusqu'à où ça va très très loin. Vérité, c'est que il nous reste quelques lignes pour finir le chapitre, mais je ne sais même pas si on va finir parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple qu'on est dans une famille.
Mais c'est délicat quand même.
D'accord ? Non, je vais donner plusieurs exemples. Imaginez qu'on est dans une famille. D'accord ? Et qu'on a un mari qui s'est marié avec une femme. Bon, évidemment, ça va de soi. Un papa, un monsieur qui s'est marié avec une madame. Ils sont mariés, Baruch HaShem, ils étaient à peu près au même niveau. Écoutez bien ce que je veux dire. Maintenant, à un moment, il y a un qui va commencer à citer au cours de Torah, par exemple le mari, et il va avancer plus vite que la femme.
Il peut freiner.
Attendez.
Non, on revient au travers de tout à
l'heure. Ben là, justement, attendez. Là, je vais revenir aux deux approches.
On revient au travers.
L'approche qui te dit le but, c'est d'aller vers le plan. Il va te dire, écoute, toi, tu avances. Le jour où tu l'as largué, ben, tu l'as largué. Et ben, le jour où elle veut divorcer, elle va divorcer. Ah, moi, je vais vers Dieu. Le but, c'est d'aller vers Dieu. D'accord ? Non, mais très sérieux. Il y en a qui pensent comme ça. J'ai vu de mes yeux des gens qui pensent comme ça. Et j'ai vu de mes yeux des gens qui l'ont fait. C'est pas de l'égoïsme. Non, c'est pas forcément. C'est même pas de l'égoïsme. Ça, je peux pas dire que c'est de l'égoïsme.
Tu peux s'en rendre compte.
C'est qu'il dit, écoute, j'ai envie d'avancer parce que je vois que c'est la vérité. Je crois qu'on avance dans la vérité.
C'est pas ce que je dis, mais ce que tu dis là, effectivement, ça c'est le bon sens. Mais l'égoïsme, c'est de tout de suite de retraduire derrière le fait, ah ben je vais divorcer.
Voilà, il veut pas divorcer lui.
C'est cette partie-là qui va pas.
Lui, il veut pas divorcer.
Le fait d'avancer, c'est bien sûr.
Alors justement, celui qui va dire, écoute, moi j'avance, d'accord, qui m'aime me suive.
Tu dois appuyer sur frein.
D'accord. Alors justement, si tu vas suivre l'approche de ceux qui te disent que le plus important c'est quoi ? Dans le trio Israël, enfin Dieu, Israël, la Torah, c'est quoi les deux principaux ? C'est que la Torah et Dieu. Ça veut dire que Israël est tellement un moyen pour accomplir la Torah. Dans ce cas-là, ils vont dire, écoute, toi tu es là, ton but c'est d'arriver là. Alors ta femme ne te suit pas, ben écoute, tu avances. Si elle te suit, elle te suit pas, tant pis. Viens là de Mourazakan, viens l'approche de Rasselout Rabad, de la Rasselout en général. Tu dis non. T'as pas le droit de faire ça.
Non.
Voilà. Si tu avances trop vite, faut freiner. Pourquoi ? Bien sûr. Faut freiner pour t'assurer que tu avances en même temps que ta femme. Tu peux te dépasser un petit peu, bon, ça c'est pas grave. Mais quand tu sens que t'es en train de la larguer, il faut tout de suite arrêter. Tu freines. Si, faut reculer s'il le faut. Parce qu'il faut être cohérent. Pourquoi ? Parce que ça, on rejoint ce qu'on vient de dire. Que il y a un trio. Et dans le trio, chacun est à sa place. Dieu, Israël, la Torah. T'es marié avec quelqu'un, c'est quelqu'un d'Israël. Le fait même qu'il est d'Israël, c'est déjà un but en soi. Et c'est comme si je vous donne un exemple. Si on parlait par exemple des enfants, d'accord ? On va dire la même chose. On va dire, il y a le père, il y a le fils, d'accord ?
Et le simple d'esprit.
Et le plan. C'est quoi le plan ? D'accord ? C'est le plan qu'on a prévu.
C'est le plan.
Le simple plan, alors. C'est quoi le plan ? Il y a le père, d'accord ? Qui aime son fils. Donc il y a le père, le fils. Et il y a le plan. C'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? Le plan, c'est que, par exemple, le père aimerait bien que le fils fasse ses études comme il faut, qu'il ait des bonnes notes, etc. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le fils ne se comporte pas comme le plan ? Celui qui va être en approche A, il va dire, ah, le but c'est le plan. Il n'y a pas de plan, on cogne.
On peut cogner un peu.
pas trop. Bah oui.
Maintenant, celui qui réfléchit comme ça. Par contre, celui qui réfléchit différemment, selon l'approche de la Chassidout, il va dire, non, ça marche pas comme ça. Il va dire, il y a le père, il y a le fils, et il y a le plan. D'accord ? Le mieux, ce qui est bien, c'est que le père suive le plan du fils. Non, pardon, que le fils suive le plan du père. S'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, le fait même que j'ai un fils, c'est déjà un but en soi. Et donc, je l'aime parce que c'est mon fils, pas parce qu'il a des bonnes notes. S'il a des bonnes notes, c'est encore mieux. Vous comprenez ce que je viens de dire ? Tu n'aimes pas ton fils parce qu'il t'amène des bons résultats. Tu l'aimes parce que c'est ton fils. Si en plus de ça, il t'amène des bons résultats, alors c'est encore raison de plus pour avoir une satisfaction. Père Rabotai, c'est exactement le même sentiment. C'est exactement le même sentiment qu'on doit avoir envers un frère juif. C'est exactement le même sentiment. Le même sentiment, je dois sentir que d'abord, je lui rends service parce que je l'aime. Parce que c'est mon frère. Attends, j'arrive. D'abord, je dois l'aimer parce que c'est mon frère. Number one. Je l'aime parce que c'est mon frère. Si maintenant, en plus de ça, grâce à mon amour, j'arrive à l'approcher à la Torah, il est ma tov.
Non, mais te dis, lui, il est dans la Torah.
D'accord ?
C'est toi qui n'es pas.
Oui, non, là, c'est autre chose, là. C'est-à-dire que là, je reprends. N'oubliez pas le contexte dans lequel on est en train de parler. On parle d'une personne qui a grandi comme moi, dans la Torah, dans les mitzvot, etc., qui fait une bêtise. J'essaie de lui parler par 100 manières différentes, ça marche pas, il écoute pas. Là, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit, il faut essayer de l'attirer avec l'amour. Et même si ça marche pas, tu dis, tu sais, t'as vu, j'ai essayé 100 fois, ça n'a pas marché. C'est pas grave. C'est pas que ça n'a pas marché. Ça a marché. Mais ça n'a pas marché comme tu voulais. C'est pas une réussite à 200%, c'est une réussite à 100%. C'est une première réussite, c'est que tu as rendu service à un juif. Et là, dit l'Admor HaZaken, un point très important. Il dit, en lo, sinon, lo ifsit sra mitzvah ta'avadrin. Regardez comment l'Admor HaZaken condense en quelques mots ce que je vous ai dit en une demi-heure. Il dit que même si j'ai pas réussi à rapprocher mon ami de la Torah, le fait même d'être ami avec lui, et de lui montrer des signes de vraie amitié, je n'ai pas perdu le mérite d'avoir l'amour de son prochain. J'aime pas mon prochain parce qu'il va revenir vers la Torah. Je l'aime parce que c'est mon prochain. Point barre.
Mais tu l'as,
j'aime pas ma femme parce qu'elle fait ce que j'ai envie. Je l'aime parce que c'est ma femme. Point barre. Très très important ce qu'on va dire ici. C'est une approche extraordinaire.
Là, non, on est au stade où on le hait là déjà, non?
D'accord. Non, alors justement. On te dit que même si tu dois le haïr, il faut continuer à l'aimer. Maintenant, Tilan Morazaka, on va terminer avec ça. Et là, on va répondre à la question de M. Benita. Il va dire, mais attends, mais comment c'est possible? Tu me dis qu'il faut le haïr. Alors comment tu veux que je le haïr? J'ai essayé de l'approcher. Tu me dis d'accord, tu me dis que c'était pas une perte, parce que bon, comme tu l'as approché, tu as montré l'amour, donc c'est pas une perte de temps. Mais concrètement, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Je fais la tête? Je fais quoi maintenant? Je fais chez NFAU, je fais quoi? Alors il te répond, il te dit comme ça. Et tu dis, c'est très simple. Tu dis en vérité, Vega Mamkuravim Elav. On est dans les mots, page 87. On va terminer avec ça. Vega Mamkuravim Elav. Même un ami qui est proche de moi. Velo Veoricham. À qui j'ai fait des reproches. Velo Shavu Mavonotem. Et qui n'a pas fait tes chouvins. Chez Mitzvah Lesanotam. Que là, on a une mitzvah de les haïr. Même si j'ai une mitzvah de les haïr, Mitzvah Le Ahavam Gamken. J'ai la mitzvah de les aimer en même temps. Parce que c'est pas une mitzvah qui contredit une autre. C'est deux mitzvahs distinctes. Il y a une mitzvah qui te dit qu'il faut aimer ton prochain, et l'autre mitzvah qui te dit, quand il a fait une bêtise très très grave dans les conditions qu'on a dit, il faut le haïr.
C'est pas de l'amour, c'est de la rage.
Donc en même temps, je dois le haïr, en même temps, je dois l'aimer. Mais comment c'est possible?
C'est un mélange.
Ah, la réponse. Ushtien en emet. Les deux sont vrais. Comment les deux sont vrais? Comment je peux en même temps, au même moment, Monsieur Benita, à la même seconde, avoir un sentiment de haine, un sentiment d'amour? C'est pas possible, c'est binaire, pas possible.
Le haïr, c'est, là, dans ce cas-là, c'est probablement le haïr pour une période.
Non.
Alors que l'aimer.
Ah, mais non, mais non. Oui. Au même moment, je dois le haïr et l'aimer.
C'est hybride. C'est-à-dire qu'on même.
Ah, il y a un problème, là.
Juste de porter l'intérêt, c'est l'aimer.
C'est limite schizophrénie.
Tu aimes son âme. Non, tu aimes son âme. Dis-moi.
Non, il faut son âme.
Ce qu'il dit pas, quand il me dit, il faut le haïr et
alors,
l'aimer.
Alors, réponse.
Sur quelle période je dois le haïr?
Réponse. Ushtien et l'émet, les deux sont vrais. La haine et l'amour. Sin a mitzadara shebaem. Je dois haïr le mal qu'il a en lui. Ve'ahava mitzad tinat atov aganu shebaem. Et je l'aime par rapport au bien caché qu'il a en lui. Qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début du chapitre? On n'arrête pas de dire que chaque juif au fond de lui, c'est une bombe atomique. Il a un bien caché en lui. Même si maintenant ce bien, il ne l'a pas exprimé, il est caché en lui. Je vais le haïr dans ce cas spécifique, attention, hein. Je vais haïr le mal qu'il a en lui, et je vais aimer le bien qu'il a en lui. Ça veut dire qu'en vérité, je ne hais pas la personne. Je hais le mal qu'il est en train de véhiculer. Ça veut dire qu'on ne va jamais haïr quelqu'un. On va haïr ce qu'il fait. Très très dur. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais haïr ce qu'il fait, c'est...
Pourquoi? Parce que je dois me dire que cette même personne, il y a ce qu'il fait et il y a ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il a en potentiel. Ce qu'il fait, c'est pas bon, et c'est ce que je vais, mais ce qu'il aurait pu faire, c'est du bien. Donc, je veux pas haïr monsieur rachat. Monsieur n'est pas un rachat, il se comporte comme un rachat. Donc, je vais haïr le côté rachat qu'il a en lui. Mais c'est un côté rachat. Il a un côté tzadique aussi en lui.
J'aime que le côté tzadique.
Oui, évidemment.
J'aime pas la personne.
Non, mais justement, c'est-à-dire que la personne est un mélange des deux. C'est-à-dire, je peux pas dire, quand je dis la personne, c'est qui la personne? Il y a une vraie démultiplication de la personne.
Moralité, il faut l'aimer dans tous les cas, alors.
Voilà, vous avez compris. Moralité, c'est fini les disputes.
Terminé. Allez, c'est bien, allez, fermez vos livres.
Hein? Chérie, je t'ai ramené des pleurs.
Peace and love. Alors,
exactement.
Voilà,
t'as
ça.
Des pleurs.
Alors, donc, Shehu nitzot shebet elokut shebetocham amechaye nafsham aelokit. Vegam, on va terminer avec ça. Donc, vous avez vu comment on a bien construit ça. On a expliqué que d'abord, c'est pas n'importe qui qu'on peut haïr. Même celui que tu vas haïr, il faut continuer à l'aimer. Parce que le fait même de l'aimer, c'est déjà un but en soi. Et même quand tu vas haïr, tu vas pas haïr la personne. Tu vas haïr le mal qu'il a en lui. Et il reste aussi une petite carte intéressante. Végam aussi. Quand tu vois un moment que tu essayes de parler à quelqu'un, ça marche pas. T'as tout fait, t'es sorti de ton cœur, t'as essayé de parler, etc. Ça marche pas. Il y a une petite carte qui reste. Végam le horer rachami belibo alia. Fais tes ilim pour lui.
Sérieux?
Fais tes ilim pour lui. Bon, tu vois que quand tu parles, ça passe pas.
Mais alors, je dois aller.
Attendez. Quoi dans les attendez. Non, fais tes ilim. Ça veut dire implore à Kadosh Baruch Hu, implore la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Dis-toi, ki biprinat galut betor haram israha gover alav rishaim. Dis-toi que c'est vrai que ce juif, ton ami, parce que c'est son ami qu'on parle ici qui va haïr, c'est vrai que ton ami, il a une âme divine, mais cette âme divine, tellement il a fait des bêtises qu'il a enfui avec des bêtises. Et du coup, l'âme divine est devenue en captivité, elle est devenue en exil. Alors, prie pour ce juif, que Dieu il aide à faire en sorte que son âme divine elle sorte un petit peu de cette captivité, et là, dès qu'il voit la lumière, elle va sortir. Prie pour lui. C'est-à-dire, des fois, on sent que c'est peine perdue. Tu sens que le moteur, il démarre pas. Il laisse tomber, t'arrives pas. C'est ça qu'il y a un blocage dessus, c'est bloqué. Quand tu vois que t'arrives pas à parler à la personne, ça passe pas, tu l'écoutes. À un moment, bon, tu vois que ça passe pas, qu'est-ce que tu veux faire? Prie pour lui, fais Tehilim pour lui. Fais Tehilim, demande à Kadosh Baruch Hu, et pas que Tehilim d'ailleurs, même la Shila, demande à Kadosh Baruch Hu d'aider cette personne-là à ce que son âme divine arrive à sortir du cocon de l'âme animale dans laquelle elle se trouve. Et là, automatiquement, dès qu'elle va ressortir, là, automatiquement, le bien qui est en lui va ressortir. Parce que chaque personne est en vérité une dualité de bien et de mal. Seulement, des fois, chez le rachat, ce qui s'est passé, c'est que le mal s'exprimait plus que le bien. On prie pour lui, pour que son bien sorte, comme ça, automatiquement, le bien reprend l'avantage naturel pour en couvrir.
Tu l'as rajouté, ça, parce qu'il n'est pas mort.
D'accord, bien sûr.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a des
de prier pour lui.
Le horaire Ramus, qui t'écrit, là. On n'a pas l'homme livre.
De vivre la compassion dans son cœur.
Mais c'est quoi, il vit la compassion dans son cœur?
Ah, c'est prier pour lui?
On n'est pas chez les crétins.
Ah, ben non, il est parti aussi d'éveiller la compassion dans son cœur.
Éveiller la compassion dans son cœur, c'est quoi? De quoi on parle?
Et donc, c'est
hein? Quand on parle? Quand on parle, Père David.
C'est pas marqué d'esprit un mot de prier pour lui?
Saint-Père.
Je vais prier pour toi, mon frère.
Alors, la compassion. Pourquoi c'est ça qu'on parle?
D'éveiller la compassion dans son cœur.
Oui? D'éveiller la compassion, de prier pour lui?
Sur l'homme divine.
Donc, on est en train de dire, d'accord, on est en train de dire que d'ailleurs, au passage, vous savez que, il y a même un tosfot intéressant. Je m'excuse, on va dépasser un petit peu aujourd'hui. Il y a un tosfot intéressant qui pose la question suivante. Il dit, si je suis dehors dans la rue, vous savez qu'il y a une mitzvah, que lorsqu'on voit l'âne de son ami ou de son ennemi en train de crouler sous sa charge, on a la mitzvah de
l'aider,
décharger l'âne et de l'aider à se relever. Maintenant, écoutez la question de la Gemara.
Même si c'est son ennemi.
Justement, écoutez cette question. Si devant moi, d'accord, j'ai deux ânes qui viennent de s'écrouler. L'âne de mon ami, de mon meilleur ami, et l'âne de mon plus grand ennemi. Et les deux se sont écroulés en même temps. Lequel je dois aider en premier?
L'ennemi.
Pourquoi?
Vous êtes tombé dans le piège. Hein.
Pour le rendre ton ami.
Pourquoi? Vous savez pourquoi? Tosfot, il explique. Vous savez pourquoi? Tosfot, il a répondu. Alors, Tosfot pose une question, il dit, mais je comprends pas. Il dit, mais comment il dit, puisque c'est mon ennemi, ça veut dire que de qui, c'est quoi une personne qui est mon ennemi? C'est une personne que la Torah me permet de haïr et m'ordonne de haïr. Donc, ça veut dire qu'en vérité, de quel ça n'en parle ici? Devant moi, il y a deux juifs. Il y a un juif qui est mon ami, ça veut dire qu'il y a un qui est un tzadik. De l'autre côté, il y a un rachat qui est mon ami que je connais, que j'ai essayé de parler, qui m'a pas écouté 100 fois. Et lui, tu veux que je l'aide en priorité? C'est ce que répond Tosfot. Tosfot, il te dit, même lorsque la Torah te dit que tu dois le haïr, faire attention que la haine n'aille pas trop loin. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu as une situation comme ça, que tu vois que tu as soit l'ami, soit l'ennemi, efforce-toi d'aimer l'ennemi. Comme ça, grâce à ça, tu modules la haine pour qu'elle n'aille pas trop loin. C'est-à-dire, même lorsque la Torah t'a dit d'avoir une haine, il faut moduler la haine. Ah ouais. La chof, il te trouve pour casser ton état.
Tu transformes l'ennemi en ami.
Non, même pas ça.
Tu vas attiser la haine de ton ami, là.
Canoda, comme c'est connu. Mimashekatouv, les Yaakov, Asher Pada et Abraham. D'accord? Comme il est connu ce qui est écrit, que c'est écrit dans Isaïe, Jacob a racheté Abraham. C'est qui Abraham? Abraham, c'est la bonté. C'est qui Jacob? Jacob, c'est la miséricorde. Et on dit que Jacob, donc qui est la miséricorde, rachète la bonté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on essaie de parler avec quelqu'un, il y a trois étapes. La bonté, la rigueur, la miséricorde. D'accord? La bonté, c'est quand j'essaie de lui parler avec amour. À un moment, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? La rigueur. Mais à un moment, ça passe pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Implorer à Kadosh Baruch Hu que cette personne-là arrive à sortir de l'exil dans lequel elle se trouve. Et là, parce que avec cette personne-là, elle va pouvoir s'en sortir. Et là, on termine avec ça. Dit Velo Amar David Amelech Alav Shalom. Lorsque le roi David, dans le psaume 139, a dit Tachlit Sina Senetim, je les hais d'une haine absolue de qui il parlait, et là, à la minim, va picorsim, seulement sur des gens qui sont minimes, c'est-à-dire des imposteurs, va picorsim, des gens qui renient dans la Torah, d'accord? Mais qui renient pas parce que, alors là, je m'arrête juste encore un petit instant, il y a deux types de personnes qui font des avérotes. La majorité, pour moi, l'écrasante majorité des gens qui font des avérotes, c'est pas parce qu'ils ont envie de se révolter contre Dieu.
Ou qu'ils connaissent pas.
Non, c'est parce qu'ils ont envie de kiffer, c'est tout. Soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce que bon, c'est la Vera était trop tentante. Mais ça veut dire que si la Vera n'était pas tentante, ils n'auraient pas dit, tiens, tu sais quoi, la Vera, elle ne me plaît pas, mais tiens, Dieu, je vais t'énerver, je vais faire une Vera. C'est ce qu'on appelle en Shulchan Aruch un Moumar le Achis, un renégat pour embêter Dieu. Là, quand c'est une personne qui est dans cette catégorie, là, c'est autre chose. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas de circonstances atténuantes, pas que c'est un rescapé de la Shoah, quelque chose comme ça, etc., là, c'est quelqu'un qui est dans une famille religieuse, comme ça, et tout d'un coup, il tourne le dos à Kadosh Baruch Hu. Et il fait la vérote pas parce qu'il se lâche. Il fait la vérote exprès pour embêter Kadosh Baruch Hu. C'est pas que c'était plus fort que lui. Il avait des tentations. Il n'y a pas de tentation. Il veut embêter Dieu. Là, c'est différent. Quand c'est des gens comme ça, d'accord, ces gens-là, c'est les ennemis de Dieu. Ça, ces gens-là, il faut prendre distance avec eux.
C'est très rare.
Quand même. Très, très rare. Ça n'arrive, ça n'existe pas.
C'est la provocation. Hein? Si tu dis qu'il veut embêter Dieu, ça veut dire qu'il croit en Dieu.
Très très rare.
En général,
à mon avis, des gens comme ça n'existe pas aujourd'hui.
Les gens que tu décris.
À l'époque, la Bible, il y en avait. Il y avait des rois d'Israël, etc.
Tu peux te rebeller un peu de temps en temps pour faire réagir.
Ça n'a rien à voir.
Mais si tu peux dire, voilà, je vais faire une petite avéra, je vais me rebeller un peu, je suis pas content d'être.
Les quoi ?
Je le vois, j'entends.
Non, mais là, c'est pas. Là, c'est
embêté.
Non. C'est pas la même chose, là. Là, c'est quelqu'un qui veut montrer son mécontentement à Dieu. C'est pas de ça que je parle.
En même temps, il fait une avéra.
Non. Je parle de quelqu'un qui veut énerver Dieu. Shmeta.
Ouais,
ça veut dire qu'il veut provoquer Dieu.
C'est rare, ça.
Ouais, mais il voit bien qu'il a un but, pourquoi il veut faire ça?
Il a envie d'énerver Dieu, c'est tout.
Il fait pas ça gratuit.
Ça veut dire qu'il sait que c'est grave, et comme il sait que c'est grave, c'est pour ça qu'il veut le faire. Pour moi, ça n'existe pas aujourd'hui.
Pas parce qu'il est déçu par la chose.
Non. Ça, c'est des choses enseignantes, ça. D'accord? Donc, enfin, pour finir sur une parole positive, sachez que Mashiach.
Ah, il est là.
Mashiach, attendez, sachez que Mashiach, c'est écrit qu'il laissera personne. Il laissera personne. Même quand un juif qui dira, mais laissez-moi tranquille, je suis bien avec Christine.
On est sauvé.
D'accord? Laissez-moi tranquille. Mashiach, il laissera personne.
Il ne dit pas Christian.
D'accord?
Même Christian. On rigole, mais.
Bien sûr, on rigole, c'est malheureux.
Quel intérêt de se dépêcher de venir?
Alors, c'est ce que te dit Mashiach. Mashiach, d'accord? Mashiach, il va attraper les gens un par un. Et là, je voudrais terminer avec ça. Le rabbi dit la chose suivante. Il dit,
faites gaffe.
Même ceux qu'on a dit qu'il y a la haine, il faut jamais avoir une répulsion de la personne. Il faut avoir une répulsion de la faute que la personne a faite. Ça veut dire que même quand on a vu des gens, par exemple, qui ont fait d'avérotes très très graves, lui-même, je le hais pas. C'est pas lui que je vais haïr. Je vais haïr le mal qu'il en lui. Vous savez, je termine avec ça, on raconte que lorsque le rabbi, tous les dimanches, il distribuait les dollars. Comme ça, les gens prenaient ces dollars, ils les mettaient à la tzedaka. Ou bien, il échangeait contre un dollar, et il mettait les dollars à la tzedaka. Et une fois, c'est une queue qui durait plusieurs heures, qui durait 5, 6, 7 heures, des fois 8 heures. Enfin, il y avait des dizaines de personnes qui passaient. On ne se rend même pas compte le nombre de personnes qui passaient tous les dimanches. Et une fois, il y avait une vieille dame qui a fait la queue. Il y avait une ligne spéciale, mais elle n'a pas voulu la prendre. Elle a fait la queue pendant plusieurs heures. Quand elle est arrivée devant le rabbi, elle ne pouvait plus. Elle a dit, mais rabbi, vous êtes âgé comme moi. Comment vous faites pour tenir debout depuis tellement de temps? Moi, je suis là, ça fait même pas deux heures que je suis debout. J'en peux plus, je tiens plus. Et le rabbi lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, quand on compte des diamants, on se fatigue pas.
On se fatigue pas.
Ouais. Imaginez, je vous dis, monsieur Benita... D'accord? Vous allez aller chercher les diamants. Vous allez rester debout 48 heures, vous n'allez pas sentir la fatigue.
Non, je les compterai assis.
C'est Ça, c'est la réponse que le rabbi a répondu. Quand on compte des diamants, c'est-à-dire que le rabbi nous a appris, la chassidut nous apprend que chaque juif est un diamant. Ah, pourtant, des fois, par exemple, on a vu des fois au dollar,
des fois il est pas poli.
Des gens qui sont venus chez le rabbi. Il y en a une fois, il est venu chez le rabbi, il a dit, je suis venu vous amener mon livre, moi je suis missionnaire, d'accord, et j'ai écrit un livre pour les ramener, d'accord, à l'autre, et je vous donne ce livre si vous pouvez le lire. Et le rabbi prend le livre, il balance derrière. Il lui dit, comme ça, vous aurez un livre de moi. Après, le rabbi lui donne un dollar, et encore un dollar. Et il lui dit, comme ça, vous allez faire teshuva. Et l'autre, il était là, il dit, non, mais lisez-le, mon livre, il est intéressant.
On a resté tous les livres.
Et la suite de l'histoire, parce qu'on m'a envoyé par WhatsApp une vidéo, ça fait 4 mois. C'est une très, très belle vidéo. Tu vois ce juif qui raconte son histoire. Il est fini par... Alors, cette histoire s'est passée en 89. 20 ans plus tard, il a fait des chouvas. Et tu le vois dans un Beit Rabbah de Miami, en train de lire Baruch. Mais tu lis comme ça. C'est juste pour faire une bracha, il te prend. Il a fait chouvas. Ça veut dire que pour le rabbi, c'est la chassidut nous apprend, chaque juif est un diamant. Même un juif qui est tombé très très bas, c'est un diamant. Ok, il a fait une bêtise, alors le diamant, il s'est sali. On va le polir. C'est tout. Mais ça reste un diamant. Chaque juif est un diamant. Et bien, Ezrat Hashem, quand on voit ça comme ça, d'ailleurs, on pourrait parler beaucoup encore, je suis désolé, c'est déjà l'heure, on va fermer l'issue, je ne vais pas m'arrêter. Vous savez, lorsqu'une fois, il y a une personne qui est venue voir le rabbi, il a dit, rabbi, moi je travaille dans le domaine de Kirub Rechokim. Ça veut dire rapprocher ceux qui sont loin de Dieu. Le rabbi lui a dit, moi je ne connais pas des juifs qui sont loin de Dieu. Il y a des juifs qui ne sont pas approchés encore. Bon. Il dit, moi je connais des juifs qui ne sont pas encore religieux. Il n'y a pas des juifs religieux et des juifs laïcs. Il y a ceux qui sont religieux et ceux qui ne sont pas encore religieux.
Il dit pas.
Il y a les Lubavitch et ceux qui
sont. C'est une approche complètement novatrice. C'est-à-dire que mais encore une fois, le fait même de rendre service à un juif, c'est déjà un but en soi. Si en plus on a pu le ramener à la Torah, inemata voilà. Avec ça, Bezrat Hashem, on termine le chapitre 32. Donc la semaine prochaine, on passera Bezrat Hashem au chapitre 33, qui est encore un autre débat très intéressant. On va revenir à la Simra.
On a du boulot, hein.